Le péché par l'esprit. Et je pense qu'il est intéressant pour garder un équilibre par rapport à nos empêchements de regarder donc différents aspects de la vie de Paul et différents empêchements qu'il a pu rencontrer. Il serait dangereux de croire que nous pouvons accuser Satan chaque fois que nous n'arrivons pas à faire ce que nous avons envie de faire. Et donc nous allons regarder en fait trois sortes d'empêchements ce matin dans la vie de Paul. Et nous découvrirons qu'en fin de compte, pour comprendre nos frustrations, nous aurons toujours besoin du discernement que nous donne l'Esprit de Dieu. Il y a différentes sortes d'empêchements dans la vie et différentes façons de les accueillir aussi, de les comprendre et surtout de les vivre. Mais Jésus-Christ est Seigneur et le Dieu que nous appelons Père reste souverain. Donc, commençons par empêcher par l'Esprit ce qu'on appelle le deuxième voyage missionnaire de Paul, dont le récit commence à la fin d'acte 15, est d'abord un voyage d'affermissement, une tournée des églises d'Asie mineure que Paul avait déjà implantées lors de son premier voyage. Je vous lis le commentaire de Luc. Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Mais à un moment donné, Paul veut reprendre le travail pionnier. Et là, il y a un temps de tâtonnement dans l'expérience de Paul et de ses collaborateurs. Et nous allons lire ensemble dans Acte 16 un petit bout de ce récit pour nous éclairer. Acte 16, et je vais lire au verset 6. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait: « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Ce qu'on appelle donc le deuxième voyage de Paul, comme on a dit, c'est un voyage qui commence par l'affermissement, mais qui continue dans un temps de tâtonnement. Est-ce qu'on va aller à droite? Est-ce qu'on va aller à gauche? Et ce qui frappe ici, c'est empêché par l'Esprit Saint. Et un peu plus loin, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ici, nous avons deux projets tout à fait raisonnables, je dirais tout à fait spirituels, des projets qui échouent pourtant, non pas à cause d'une opposition humaine, ni d'un manque de moyens, sans doute, mais parce que le Seigneur avait d'autres plans pour cette équipe. Les besoins sont grands à l'époque et dans cette région. Au sud-ouest, une grande partie de la province d'Asie attend d'être évangélisée. Paul et ses compagnons se proposent d'y aller, mais le Seigneur dit non. Ensuite, ils reprennent la route par la Phrygie, ils rendent visite à Antioche en Pisidie. L'évangile avait connu un certain succès lors du premier voyage. Et ensuite, la question va se reposer, mais où aller maintenant? Alors, si l'Asie est fermée, on va essayer de remonter au nord et de pénétrer en Bithynie. Mais ce projet encore se heurte à une interdiction divine. Le Seigneur a-t-il utilisé des circonstances particulières pour empêcher Paul d'avancer ici? Évidemment, on peut penser à des tas de choses. Une route rendue impraticable par des intempéries, une maladie dans l'équipe, une instabilité politique, mais le texte n'en parle pas. Nous ne saurons pas si le Seigneur a mis en place des circonstances pour empêcher Paul d'avancer dans ces directions. Parce que finalement, le Seigneur a tous les moyens qu'il lui faut à sa disposition s'il veut nous diriger dans un sens ou d'un autre. Et je pense que ce qui était sûrement important en dehors des circonstances ou au-delà des circonstances qu'ils ont pu rencontrer, c'était la question de la conviction que Dieu leur donnait, une conviction donc intérieure et forte. Je dirais qu'ils n'avaient pas la paix pour avancer en Asie, en Bithynie. Si les circonstances ne sont pas précisées, j'ai tendance à croire que c'est que nous ne devons pas trop nous arrêter aux circonstances. Pourtant, c'est souvent ce que nous faisons. Le Seigneur nous invite à regarder au-delà de ces circonstances qu'il utilise parfois, mais surtout de regarder à la paix qu'il donne et surtout apprendre à attendre sa paix pour agir. L'Asie était fermée, la Bithynie aussi. Mais le Seigneur dit, et Paul l'écrit aux Philippiens, « La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et nous avons aussi besoin, comme Paul, de chercher cette paix pour chaque décision, pour chaque choix, et en particulier quand nous sommes dans un temps de tâtonnement. Quels sont nos empêchements? Nous en avons, bien sûr. Vous avez peut-être déjà connu une panne de voiture, une grève de train, une grippe qui vous a empêché de sortir, l'appel au secours d'un proche, d'un frère, qui a changé votre programme, ou un contexte sanitaire inédit. Mais la question que je me pose, c'est comment vivons-nous nos empêchements? Comment vivons-nous nos empêchements? Est-ce que je les vis en pestant contre la malchance, contre la poisse, ou plutôt en pliant le genou devant la volonté souveraine de Dieu et en cherchant à comprendre, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté en ce moment pour moi? Où est-ce que tu veux m'amener? Pourquoi ces changements de programme? Qu'est-ce que je dois saisir? Car c'est parfois lui qui impose ces changements comme il l'a fait pour Paul. Dans l'accomplissement de sa mission, Paul tenait compte des besoins. On a parlé des besoins à l'instant. Et des besoins, il y en avait. Et ces besoins étaient évidents autant en Asie qu'en Bithynie, mais les besoins dépasseront toujours les moyens d'une seule personne, d'une seule équipe et même d'une seule église locale. Le Seigneur allait en fait susciter d'autres ouvriers pour s'occuper des territoires qu'il avait interdits à Paul. On peut apprendre dans le Nouveau Testament qu'à une époque un peu plus tardive, l'apôtre Jean a été très impliqué avec des églises en Asie mineure, là où Paul n'avait pas pu aller. Et à l'équipe de Paul, le Seigneur allait ouvrir la porte de la Macédoine. La porte de la Macédoine, c'était la porte de l'Europe. Paul, ici, va venir chez nous pour annoncer l'Évangile. Et c'est une grande étape pour l'évangélisation du monde. L'apôtre croyait profondément à ce qu'il appelle dans l'Épître aux Éphésiens des œuvres bonnes que le Seigneur a préparées afin que nous nous y adonnions. Il cherchait toujours à discerner quelle était l'œuvre du moment, quelle était la chose que le Seigneur lui demandait. Notre mission sur terre, pour la résumer simplement, est d'être des témoins pour faire des disciples. Les possibilités d'action sont vastes et variées, mais l'Esprit veut agir pour nous canaliser. Et c'est une bonne chose pour nous quand le Seigneur organise nos circonstances et aussi nous impose parfois de changer de chemin, de changer de direction, de changer de projet, d'avis, pour aller dans le sens de ce qu'il a prévu pour nous. Et quand l'Esprit de Jésus nous empêche d'aller dans telle ou telle direction, il n'y a pas à avoir des regrets. Notre Seigneur a le pouvoir de fermer des portes, mais toujours pour en ouvrir d'autres. Et ce qu'il nous demande, c'est de confesser de tout notre cœur qu'il en a le droit. Seigneur, c'est toi qui vois. Seigneur, c'est toi qui sais. Qu'il puisse nous aider à être dans cette attitude qu'on voit déjà dans la vie de l'apôtre Paul. Mais il y a une deuxième sorte d'empêchement dont j'aimerais parler et que j'ai appelé empêcher par une priorité. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Dans sa lettre aux Romains, Paul exprime son vif désir de rendre visite à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. Et il explique ce qui l'a souvent empêché de faire le voyage. On va lire quelques versets dans Romains 15, à partir du verset 20. Romains 15, verset 20. Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'Évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture, « Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. » C'est aussi cette raison qui m'a empêché, bien des fois, d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous, et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant, et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer. Qu'est-ce qui a souvent empêché l'apôtre Paul de mener à bien ce projet de visite à Rome? Paul avait identifié une priorité. Et pour s'y consacrer, il a été prêt à renoncer à d'autres envies, à d'autres projets, même légitimes. Voici comment il exprime ce qui motivait son désir de visiter Rome. C'était pour que chez vous, nous soyons tous encouragés, chacun par la foi de l'autre, par la vôtre comme par la mienne. Ce projet lui était cher. Ça lui tenait à cœur. Je me suis souvent proposé de venir vous voir. Ce projet était tout à fait honorable, mais il n'était pas prioritaire. On pourrait dire qu'il n'était pas encore prioritaire. Cette attitude tranche avec l'esprit de notre siècle qui nous conseille de faire ce qui nous plaît. Et surtout, quand ça nous plaît, pourquoi attendre? Tu as envie, ben fais-le. Le Seigneur veut nous apprendre à notre fonctionnement. Le rôle que le Seigneur a prévu pour moi dans son grand dessein est-il prioritaire? Sa volonté prend-elle le dessus sur mes envies, sur mes projets, sur ce que j'aurais voulu. Paul savait que Dieu connaissait parfaitement bien les désirs de son cœur, mais il pesait les choses, le pour et le contre, et il donnait la priorité à ce que Dieu voulait pour lui. Le Seigneur était au courant de son désir d'aller à Rome. Et lorsqu'il écrit ces lignes que nous avons lues dans Romains 15, il sait que son service est à un tournant, c'est un tournant dans sa vie. Sa prochaine priorité est une visite à Jérusalem pour apporter la collecte de solidarité pour les chrétiens pauvres qui s'y trouvent. Après, il espère encore passer à Rome. Donc, il est dans l'idée que ma visite à Rome n'est pas encore dans le programme de Dieu pour moi, mais j'espère que bientôt le Seigneur le mettra dans son plan pour moi. Alors, nous le savons, nous avons lu l'histoire, nous connaissons la fin. À Rome, il ira. Pas tout de suite, parce que d'abord il va connaître un confinement à Césarée qui va durer un certain temps, et il n'ira pas à Rome comme missionnaire de passage en route pour l'Espagne. Il sera acheminé par les bons soins de l'armée romaine comme prisonnier pour comparaître devant César. Et là je me dis, notre Dieu a sa propre façon de réaliser nos envies. Notre Dieu a sa propre façon de réaliser nos envies. Et il nous dit, et il doit parfois nous le rappeler, « Vos voies ne sont pas mes voies », dit l'Éternel. Le Seigneur n'interdit pas à ses enfants d'avoir des rêves, d'avoir des projets personnels, mais il nous demande de donner la priorité à chercher d'abord son règne et ce qui est juste à ses yeux. Chercher d'abord, c'est une priorité. C'est la priorité. Mais le Seigneur nous assure que tout le reste nous sera donné en plus. C'est une belle promesse. Mais je crois qu'il faut aussi nous dire que le Seigneur réalise cette promesse aussi à sa façon et pas toujours comme nous l'aurions imaginé, pas toujours comme nous l'avons projeté nous-mêmes, mais toujours comme notre Père juge bon pour nous. Est-ce que je suis prêt à laisser le Seigneur fixer la priorité du moment, la priorité du jour, de la semaine, de cette étape de ma vie, d'une nouvelle étape peut-être de votre vie? Est-ce que c'est la priorité de Dieu qui prime, même si cela nous empêche de voir se réaliser à court terme certaines envies, même légitimes. Il y a une troisième sorte d'empêchement que j'avais évoqué dans mon introduction, et j'aimerais lire quelques versets dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, je prendrai au verset 17, 1 Thessaloniciens 2, verset 17. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, étant séparés de vous pour un temps, de corps mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à une et même deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et la couronne dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. J'ai juste besoin de baisser le store. Voilà, parce que le soleil m'aveugle, et je continue. Donc, Paul exprime ici sa vive déception d'avoir été empêché plus d'une fois de retourner voir ses frères et sœurs à Thessalonique. Et sa frustration est aggravée, on le sent dans ce texte, par sa vive affection pour les Thessaloniciens. Et cette frustration est sans doute approfondie aussi par le fait qu'il se sent entravé dans son service, hein, dans ce qu'il pense devoir faire. Et ici, l'apôtre attribue sans hésitation ses déboires à l'action de Satan, l'adversaire, le prince de ce monde. Comment faut-il comprendre cette déclaration? Satan nous en a empêchés. L'esprit qui anime l'humanité rebelle s'oppose à l'œuvre du Seigneur et voudrait empêcher la propagation de l'Évangile, la croissance de l'Église. Mais comment agit-il? Alors, il y aurait plusieurs réponses sans doute à cette question, mais j'aimerais rester sur ce qui arrive à Paul ici, parce que c'est un exemple instructif. Et le livre des Actes nous raconte comment, du moins dans un premier temps, Paul a été empêché de mener à bonne fin sa mission à Thessalonique. Et dans le texte des Actes, dans Actes 17, nous découvrons une sorte de machination à plusieurs étages qui se met en place et qui va chasser l'apôtre d'abord de la ville et lui interdire de revenir. Au départ, il y a une passion jalouse qui naît dans le cœur de certains juifs de la ville, devant le succès de l'Évangile. L'ennemi utilise, exploite les émotions négatives des hommes. Et ici, il va se saisir de cette passion jalouse pour s'en servir contre l'apôtre Paul. Cette jalousie va servir à l'adversaire donc pour lancer une manipulation. Ils vont d'abord manipuler quelques mauvais garçons, hein, ou dans d'autres traductions, quelques vauriens désœuvrés, qui sont toujours à la recherche d'un mauvais coup et toujours contents, hein, qu'on leur donne du travail. Ceux-ci réussissent à provoquer un attroupement, de l'agitation dans la ville, une foule qui s'agite, ce qui ne manque pas de mettre en alerte les autorités. Donc la foule aussi est manipulée, elle se lance à la recherche de Paul. Elle ne le trouve pas, mais elle trouve Jason qui logeait l'apôtre chez lui, et elle trouve aussi quelques autres chrétiens. Ces chrétiens, donc Jason et les autres, sont traînés devant les magistrats, accusés de mettre la ville en ébullition, de fomenter une insurrection, de faire la révolution. Et les magistrats sont aussi donc manipulés à leur tour. Eux qui savent que s'il y a une chose que le pouvoir de Rome déteste, c'est le désordre. Et donc, on aboutit à une interdiction de séjour pour Paul, garantie par une forte caution que Jason et les autres devront verser si jamais Paul remet les pieds à Thessalonique. Donc, pour résumer, Paul ne peut plus revenir à Thessalonique sans porter préjudice à ses frères. C'est diabolique. Le mot est, je pense, tout à fait approprié. Ensuite, ces mêmes juifs jaloux vont poursuivre Paul jusqu'à Bérée, où il s'est donc retiré, et ils vont l'obliger à aller encore plus loin, alors que sans doute, dans sa tête, il se disait peut-être que je pourrais encore me rapprocher des Thessaloniciens à un moment ou à un autre pour continuer à les enseigner. Donc, on fait tout pour que Paul soit empêché de continuer son enseignement parmi les Thessaloniciens. Et on comprend sa frustration, mais on voit aussi comment l'ennemi a agi. En tout cas, dans ce cas, il y a toute une chaîne d'intervenants humains qu'on aurait appelé autrefois des suppôts de Satan. C'est une vieille expression, mais qui voulait bien dire quelque chose. L'esprit de rébellion qui mène le monde trouve des collaborateurs. Et comme j'ai dit, manipule aussi les émotions négatives des uns et des autres pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et ils trouvent des collaborateurs, parfois même jusqu'à parmi nos proches. Et là, je pense au cas, évidemment, de Judas, qui faisait partie du premier cercle des disciples, et pourtant, Satan est entré dans le cœur de Judas. Nous ne devons pas être surpris de ce genre d'empêchement, hein, qui parfois nous frustre aussi dans ce que nous voulons faire. Alors, pour conclure, évidemment, la question qui va se poser à notre esprit tout de suite, mais c'est empêché par quoi ou par qui dans telle circonstance, comment savoir? C'est une question naturelle, c'est la question que je me pose aussi, mais en réfléchissant, je me demande si c'est la bonne question. Car ce serait une immense erreur biblique et théologique que de mettre l'action de Dieu et celle du diable sur le même plan. L'Éternel règne. Il fait tout ce qu'il veut. L'Éternel règne. Il fait tout ce qu'il veut. Mais la parole nous le dit, le méchant fait une œuvre qui le trompe. Et il y a là une perspective qui m'aide bien, qui pourrait aussi vous aider, je pense, lorsque vous êtes dans la frustration devant vos empêchements. Dieu est au-dessus de tout et il voit tout. Le diable agit à ras de terre et ne voit pas finalement pas plus loin que le bout de son nez. Deux exemples. On peut penser que c'est quand même l'ennemi qui a inspiré aux frères de Joseph de le vendre comme esclave. S'il y a un projet diabolique, c'est bien celui-là, hein, dans les premiers livres de la Bible. Mais Dieu a ainsi préparé le salut de Jacob et de toute sa famille et l'avenir d'Israël. Et surtout, le diable a cru triompher par la machination qu'il a mise en place pour faire crucifier Jésus. Et pourtant, il a en fait scellé sa propre défaite à la croix. C'est dans cette perspective-là que nous devons vivre. On découvre d'ailleurs par la suite dans l'Épître aux Thessaloniciens que malgré l'absence de Paul, Dieu a fait prospérer cette Église. Et pendant ce temps-là, l'apôtre a commencé à évangéliser la grande ville de Corinthe, qui en avait bien besoin. Nous avons un grand Dieu. C'est avec cela que Colin a commencé sa présidence ce matin et c'est avec cela que nous allons terminer aussi ce moment de partage. Nous avons un grand Dieu et quoi qu'imagine l'ennemi de nos âmes, nous ne sommes pas ses jouets si Jésus-Christ est Seigneur pour nous. Pas seulement en parole, mais en vérité. Quels que soient les empêchements que nous rencontrons, n'oublions pas que notre Dieu reste souverain et souverainement bon pour nous. Dieu est pour nous. Je laisserai le dernier mot à Jacques qui écrit dans son épître. Soumettez-vous donc à Dieu. Opposez-vous au diable et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci aussi pour ta main sur nos vies. Merci, Seigneur, parce que quand nous ne savons pas où aller, où nous tourner, tu sais nous canaliser. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous rendes toujours plus sensibles à ta voix, à cette paix que tu utilises pour nous diriger dans la bonne direction, selon ta pensée pour nous, à chaque instant et à chaque jour de notre vie. Seigneur, nous voulons que tu sois Seigneur sur nos projets, sur nos rêves, sur nos désirs. Nous savons, Seigneur, que tes voix ne sont pas nos voix et nous voulons plier le genou devant cette souveraineté qui est notre plus grand bien. Seigneur, garde-nous dans ta paix et garde notre chemin. Garde-nous de la frustration qui parfois nous fait mettre en doute ta bonté. Seigneur, donne-nous cette confiance en toi qui nous permet de nous élever au-dessus de nos circonstances, quelles qu'elles soient, pour te louer, pour t'adorer, car tu en es digne et tu es toujours, toujours au contrôle de tout ce qui nous arrive. Et nous t'en bénissons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.